BW. Vue d'Allemagne.
Il y a 5 ans, étaient décidées les premières mesures de confinement en Allemagne. C'était le 16 mars 2020. La COVID-19 était alors déjà détectée dans les 16 États-régions de l'Allemagne. 5 ans après, où en est la société allemande alors que des voix appellent à un examen de la période COVID-19? Quelques éléments de réponse à suivre. En seconde partie d'émission, à la rencontre des Juifs algériens qui ont lutté pour une Algérie multiculturelle et démocratique. C'est le reportage international de Vue d'Allemagne. Au micro, Relu Koubakin, willkommen, bienvenue.
Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität.
Dans une adresse à la Nation le 18 mars 2020, la chancelière allemande Angela Merkel fait le constat, alors que l'Allemagne vient de décréter le confinement de sa population pour se protéger du coronavirus, notre conception de la normalité, de la vie publique, de la cohabitation sociale, dit la chancelière, tout cela est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Angela Merkel estime que la COVID-19 a drastiquement changé la vie en Allemagne.
Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst.
C'est pourquoi permettez-moi de dire que c'est sérieux. Prenez-le au sérieux, vous aussi. Depuis l'unification allemande, non. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais notre pays n'a été confronté à un tel défi qui exige à ce point notre action solidaire commune. Permettez-moi de vous assurer, pour quelqu'un comme moi, pour qui la liberté de voyager et de se déplacer a été un droit durement acquis, de telles restrictions ne peuvent se justifier que par une nécessité absolue. Dans une démocratie, elles ne devraient jamais être décidées à la légère et de manière temporaire. Mais elles sont pour l'instant indispensables pour sauver des vies. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous remercie.
Und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen.
4 jours après cette adresse, le 22 mars 2020, entre en vigueur le confinement, priorité à la distanciation sociale. Des mots comme la quarantaine font leur entrée dans le vocabulaire. Les restaurants et les salles de cinéma ferment, tout comme les écoles et les crèches. Les visites dans les maisons de retraite et de soins sont interdites. De nombreux travailleurs font leurs premières expériences du télétravail. Le papier toilette devient bientôt une denrée rare. Certains produits doivent être rationnés pour que tout le monde ait une chance de les acheter. Les règles de confinement sont durcies en fonction de l'évolution de l'infection ou assouplies lorsque la situation est plus détendue. Le monde entier loue l'efficience allemande alors que, contrairement à d'autres pays, son système de santé a tenu bon. Mais les protestations contre les restrictions vont crescendo.
DW. La COVID-19 nous a volé notre vie. Nous ne pouvions plus voir nos amis. Tout le monde était accroché à son portable.
C'est le témoignage de Lena dans un article de nos collègues de la rédaction allemande. Son témoignage a été lu par ma collègue Carole Assignon. Lena, 21 ans, voulait devenir enseignante, mais plus maintenant, dit-elle sur la DW. Elle était une bonne élève quand elle aimait l'école. Ça, c'était avant la pandémie. Selon des études, de nombreux jeunes souffrent de troubles alimentaires, de troubles anxieux et de dépression. 5 ans après les premiers cas de COVID-19 en Allemagne, le président fédéral allemand a de nouveau plaidé le 14 mars dernier pour un travail transparent sur la période COVID-19. Frank-Walter Steinmeier.
Wie können die Narben heilen bei Kindern und jungen Leuten, also insbesondere denen?
Comment les cicatrices peuvent-elles guérir chez les enfants et les jeunes? Beaucoup d'entre eux se sont sentis abandonnés. Certains ont même subi des dommages dans leur âme et cela aussi nous occupera encore longtemps en tant que société. Je pense qu'il est très important que nous fassions le point sur ce qui s'est bien passé pendant la pandémie et sur ce qui s'est moins bien passé et qui a même causé des dommages. Mais nous ne devons pas oublier que de nombreuses mesures ont été prises sur la base de l'état des connaissances de l'époque et il s'agissait toujours d'une chose, sauver le plus grand nombre possible de vies humaines et nous y sommes parvenus.
Das ist uns auch alles in allem gelungen.
Selon un sondage YouGov pour l'agence de presse allemande DPA, plus de la moitié des personnes interrogées estiment juste les restrictions sanitaires qui ont été imposées. Mais pour 50% des personnes interrogées, elles ont été très pénibles. Beaucoup de questions sont encore discutées en Allemagne, comme l'obligation de porter ou non un masque pendant la pandémie. Le virologue Christian Drosten travaille à l'hôpital Université de la Charité de Berlin. C'était l'un des chercheurs les plus suivis en Allemagne au temps fort de la maladie. Il a aussi conseillé le gouvernement allemand. Lui aussi demande de mener un débat de société sur la COVID-19. Il a été interrogé le 23 janvier par la radio publique allemande Deutschlandfunk.
Wir müssten uns anschauen und sagen, ist jedes Leben nun gleich viel wert oder nicht?
Nous devrions nous regarder et nous dire, chaque vie a-t-elle la même valeur ou non? Ou s'agit-il plutôt d'intérêts économiques ou d'ego? La notion de liberté invoquée n'est-elle pas en fin de compte de l'égoïsme pur? Une telle discussion devrait avoir lieu dans les médias, en public, au Parlement. Et bien sûr, cela n'a pas eu lieu. Ce serait certainement quelque chose que l'on devrait faire au niveau politique et parlementaire en prévision d'une prochaine pandémie, si l'on veut vraiment parler de quelque chose comme une mise à jour. La tâche n'est certainement pas de dire qui a tout faux, qui avait tort et qui s'est enrichi, mais la bonne chose à faire serait certainement de se poser ces questions fondamentales.
Le 5 mai 2023, l'ONU lève l'état d'urgence sanitaire, mais précise que le virus reste dangereux. Plus de 7 millions de personnes sont mortes de la COVID-19 dans le monde. C'est le 9 mars 2020 qu'un premier Allemand mourait des suites de la COVID-19. Depuis, plus de 187 000 personnes ont succombé à la maladie en Allemagne. À cela, il faut ajouter les personnes en vie, mais atteintes de COVID long, c'est-à-dire qu'elles présentent des symptômes prolongés de la maladie. On n'a pas un chiffre précis sur leur nombre. Le gouvernement allemand parle cependant d'un nombre à 6 chiffres de personnes atteintes de COVID long. Vous écoutez le magazine Vue d'Allemagne, place à présent à la seconde partie. Il y a 63 ans, le 18 mars 1962, les accords d'Évian étaient signés entre la France et les indépendantistes algériens. Le lendemain, 19 mars, à midi, entre officiellement en vigueur un cessez-le-feu qui met fin à 8 ans de guerre en Algérie, jusque-là colonie française. Des historiens estiment à 500 000 le nombre de morts algériens et selon le ministère français des armées, près de 25 000 militaires ont aussi perdu la vie. C'est un fait assez méconnu. Durant cette guerre, des juifs algériens se sont rangés aux côtés du mouvement indépendantiste algérien, le FLN, Front de Libération Nationale. La présence juive en Algérie est vieille de plus de 2000 ans. Certains se sont battus pour une Algérie multiculturelle et démocratique débarrassée de la colonisation française. Cependant, l'Algérie indépendante sera loin d'être celle pour laquelle ils s'étaient battus. Les Juifs algériens engagés aux côtés des indépendantistes, un reportage à Paris de Nadira Djenad.
Depuis petite, il y avait une promenade qu'on aimait beaucoup. Cette photo me le rappelle, c'était on montait à Santa Cruz.
Dans son appartement de la Seine-sur-Mer, dans le sud de la France, André Bensoussan regarde un album de photos souvenirs de sa ville de naissance, Oran. Né en 1937 d'une famille juive dans cette ville de l'ouest algérien, André Bensoussan a pris conscience très tôt de la réalité de la colonisation. En faisant des études de géographie à Paris en 1955, elle se rapproche de militants du FLN et milite pour l'indépendance de l'Algérie. Elle effectue plusieurs missions pour le compte des nationalistes algériens.
On m'a demandé en particulier de dérober des cartes. Comme j'étais étudiante en géo, j'ai piqué des cartes d'état-major. J'avais aussi à soutenir le moral d'un militant algérien du FLN. C'était un militant qui était caché.
Je n'ai aucun regret, je trouve que... Mais vraiment aucun regret.
Dans son appartement parisien, la psychiatre, psychanalyste et écrivaine Alice Cherki évoque avec émotion son engagement pour l'indépendance de l'Algérie. Née en 1936 à Alger, de confession juive, elle rejoint, alors étudiante en pleine guerre, l'hôpital psychiatrique de Blida, au sud d'Alger en 1955.
Au déclenchement de la guerre, beaucoup de mes camarades, on va dire, musulmans algériens, sont montés au maquis. On nous a demandé des médicaments. On recevait clandestinement les blessés. On cachait des maquisards en danger. On était jeunes, mais on voulait l'indépendance.
Selon plusieurs historiens, lorsqu'éclate la guerre le 1er novembre 1954, les organisations communautaires juives font preuve d'une extrême modération, refusant de prendre politiquement parti, attaché aussi bien à la nationalité française qu'au principe d'égalité des droits pour tous. Mais certains suivent une voie différente. Benjamin Stora est historien français, spécialiste de la guerre d'Algérie, auteur notamment du livre « Trois exils juifs d'Algérie » aux éditions Stock.
Il y a à l'intérieur de la communauté juive des groupes de jeunes qui, eux, regardent du côté de la future nation algérienne. Ce sont des militants, disons, de culture juive ou d'origine, etc., et qui rejoignent les rangs du FLN dans l'espoir d'une séparation coloniale avec la France et donc de création, disons, d'une société nouvelle, indépendante, multiculturelle, etc.
À l'indépendance du pays en 1962, des juifs algériens qui se sont engagés aux côtés des indépendantistes participent à l'édification du nouvel État. C'est le cas de Martine Timsit, née à Annaba, à l'est d'Alger, en 1937. En 1962, elle et son mari obtiennent la nationalité algérienne. Tous les deux travaillent comme médecins dans une clinique psychiatrique à Alger.
Pendant 2 mois à peu près, mon mari et moi, nous étions les seuls psychiatres de la région d'Alger et même de la région de Haute-Kabylie, si vous voulez. On avait des gardes, des malades du matin au soir, du soir au matin. On travaillait jour et nuit. C'est vrai que pendant plusieurs semaines, en quelque sorte, on a été fiers, oui, de contribuer à la construction de l'Algérie nouvelle.
Cependant, l'espoir laisse place à la déception. Le code de la nationalité adopté le 12 mars 1963 légalise le caractère exclusif arabo-musulman de la nation algérienne. Les Européens et les Juifs d'Algérie doivent acquérir la nationalité. Pierre-Jean Le Foll Luciani est historien, auteur du livre « Les Juifs algériens dans la lutte anticoloniale, trajectoire dissidente 1934-1965 aux presses universitaires de Rennes ».
Des Juifs qui s'étaient engagés dans le combat pour l'indépendance ont pris la parole pour dire qu'ils étaient absolument opposés à cette définition-là. Et ça a été un premier moment de désillusion, on pourrait dire, en tout cas de difficulté pour eux à l'indépendance. Et puis par ailleurs, ils ont été, en tant que communistes, parce que beaucoup étaient communistes, également soumis à une forme de répression, en tout cas de mise au silence par le gouvernement algérien à l'indépendance.
Et mon pays, maintenant, il est dans l'imaginaire.
Dans son appartement de la Seine-sur-Mer, dans le sud de la France, André Bensoussan continue de consulter de vieilles photos de son enfance à Oran, mais avec tristesse. Elle est déçue par les premières décisions des nouvelles autorités algériennes.
J'ai très bien compris quand même que l'identité juive, de culture française, etc., on serait marginalisé, quoi. Oui. Et j'ai compris que ce serait pas l'Algérie démocratique et plurielle dont je rêvais, quoi.
En 1962, ils étaient 200 000 juifs à vivre en Algérie. Ils sont aujourd'hui quelques centaines, disséminés sur tout le territoire. Nadir Djennad à Paris pour la Deutsche Welle.
Et c'est la fin de cette édition de Vue d'Allemagne. À écouter et réécouter sur le site dw.com/français, les réseaux sociaux de DW Afrique, mais aussi sur la plateforme de podcast de votre choix. Allez, écoute, tchuss!